Alors ce matin, on va tout de suite attaquer par les lectures, parce qu'il y en a trois. Les lectures qui étaient prévues pour ce dimanche, troisième dimanche de l'Avent. La première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 35, les versets 1 à 10. Le désert et le pays aride s'égayeront. La steppe tressaillera d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera avec chants d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet triomphera. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la Araba. Le mirage se changera en étang et la terre de la soif en fontaine d'eau. Dans le repère où se couchaient les chacals, il y aura un emplacement pour les roseaux et les joncs. Il y aura là un chemin frayé, une voie qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Et là, il n'y aura pas de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Et là, marcheront des affranchis. Ainsi, ceux que l'Éternel a libérés retourneront. Ils arriveront dans Sion avec chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, le chagrin et les gémissements s'enfuiront. La deuxième lecture se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, les versets 7 à 10. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et la troisième lecture se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 2 à 6. Pour ceux qui ont pré-regardé les textes, c'est 2 à 11 normalement. Je m'arrête à 6. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. » Les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu ce matin. Nous prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous te prions que tu nous sanctifies par cette vérité, que tu ouvres les yeux de notre cœur et nos intelligences, pour que nous soyons capables de voir, de comprendre les merveilles que tu fais, que tu veux faire encore au milieu de nous. Seigneur, donne-nous par ton esprit d'être chaque jour davantage transformés à ton image et de pouvoir marcher à ta suite comme des disciples que tu attends. Dans le nom de Jésus. Amen. L'Avent, le temps de l'Avent, n'est pas seulement l'attente de Noël. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas ce temps de l'Avent écrivent A-V-A-N-T, parce que c'est avant Noël. Alors que ce n'est pas du tout le sens. Donc l'Avent n'est pas seulement l'attente de Noël, c'est l'attente de Dieu. Dieu en action, dans le temps, dans l'histoire et dans l'Alliance. Et l'Avent, en fait, commence par la promesse d'une restauration totale. C'est ce qu'on trouve dans le texte d'Ésaïe. Mais on le trouve dans d'autres textes, parce que chaque année, il y a des textes différents pour l'Avent. Et en fait, ça correspond toujours à cette idée-là. Donc l'Avent commence par une promesse. Il est l'attente du renouveau total que Dieu a promis à son peuple. Ensuite, l'Avent transforme l'attitude du croyant. Il n'est pas passif, mais il consiste à se laisser transformer par Dieu. Enfin, l'Avent est la reconnaissance du Christ déjà présent au milieu de son peuple, attesté par Jean-Baptiste comme témoin. L'Avent est donc la révélation progressive de l'œuvre de Dieu, et c'est les trois points que je développerai tout à l'heure. Le Messie vient restaurer, le croyant est transformé par l'attente, le Christ est présent, mais doit être reconnu quand même. L'Avent devient alors une mémoire de ce que Dieu a promis, une vigilance dans la sanctification qui est opérée en nous par l'Esprit de Dieu et une reconnaissance de sa présence. L'Avent est en fait un acte d'alliance fondé sur la justice et la fidélité de Dieu. C'est, on pourrait dire, l'attente d'un Dieu qui promet, qui agit, qui vient, qui habite, qui transforme, qui accomplit, qui restaure, qui délivre, qui affranchit. L'Avent est l'alliance en mouvement. L'Avent se révèle comme la restauration promise, la sanctification en cours et la présence déjà donnée. C'est d'ailleurs le sens du nom Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est donc ce temps d'Avent un peu comme une respiration de la foi chrétienne. C'est-à-dire la tension entre ce que Dieu a promis, ce qu'il est en train d'accomplir en nous et ce qu'il rend visible en son Fils. Ces trois textes que nous avons lus révèlent l'Alliance comme une œuvre messianique de restauration et de joie, une joie qui est promise comme étant éternelle. Et ils montrent que l'Alliance produit une vie transformée par l'Esprit et fondée sur la fidélité divine. Il dévoile aussi que l'Alliance nouvelle commence par un témoin, ici Jean-Baptiste, et s'accomplit par la présence du Christ au milieu de son peuple. Alors Monique en a parlé ce matin, les quatre bougies que nous allumons pendant ce temps de l'Avent symbolisent chacune un aspect de cette alliance. La première pour l'espérance, la seconde pour la paix, la troisième pour la joie, la quatrième pour l'amour. On l'a compris, ce dimanche est marqué par la joie. Et je voudrais insister là-dessus et lire ces textes au travers de ce prisme-là. Peut-être vous demandez-vous comment vous pourriez être joyeux au regard de la situation mondiale, avec ses incertitudes, ses conflits, ses injustices. Peut-être même sans parler au niveau mondial, déjà au niveau de la France, la situation vous paraît trop incertaine pour parler de joie. Au regard des abus de toutes sortes, de la situation politique, du pouvoir d'achat, ou que sais-je encore, vous avez peut-être des listes plus remplies que les miennes. Peut-être même qu'au niveau de votre propre vie personnelle, la situation ne donne pas envie d'entendre parler de joie. Peut-être à cause de conflits familiaux, de solitude, de maladies, ou même d'une épreuve de deuil ou d'une autre sorte de séparation. Et pourtant, les textes ce matin nous invitent à la joie. Et on sait que la parole de Dieu est vraie pour tous et en tout temps. Alors ça interroge. Les textes nous invitent à la joie, à redécouvrir ce que signifie l'Avent, à redéfinir notre attente, à réinvestir aussi cette joie que seul Dieu peut donner de connaître. C'est d'ailleurs vrai pour l'espérance, pour la paix et pour l'amour aussi, hein. ces sortes de sentiments, je veux dire qu'ils n'en sont pas en réalité un, sont possibles à connaître pleinement qu'avec Dieu, en fait. La définition que donne le monde de la paix, la joie, l'espérance et l'amour est tout à fait autre que ce que la Bible en donne. Voilà pourquoi on ne se comprend pas toujours parfois avec les non-croyants. Parce qu'on ne met pas la même chose derrière les mots. Alors la joie qui vient de Dieu, eh bien elle est d'une toute autre nature que celle que l'on vit sur terre. Déjà, première chose, et c'est la plus impactante, c'est parce que cette joie-là ne dépend pas des circonstances. Voilà, déjà là, on voit qu'il y a un fossé entre ce qu'on est appelé à vivre et ce qui est vécu autour de nous. Elle ne dépend pas des circonstances, ça veut dire ni de notre vie personnelle, ni de la situation de notre pays, ni même du monde. Cette joie-là se trouve en Dieu, et elle est bien plus puissante qu'aucune autre joie humaine, qui pourtant sont fortes parfois, mais qui sont passagères. Parce que cette joie-là dépend en fait de qui est Dieu, et pas de qui nous sommes nous. Or Dieu est... C'est quand même la bonne nouvelle. Dieu ne change pas. Il est solide, il est sûr, il est digne de confiance, il est fidèle. Et parce que Dieu est bon, fidèle, juste et saint, eh bien la joie qu'il donne ne peut pas nous être enlevée par quoi que ce soit d'autre. Parce qu'elle repose sur sa personne et sur ses perfections. La joie, en fait, est une attitude que l'on adopte à cause de l'espérance dans l'amour et dans les promesses de Dieu. Ainsi, la joie du peuple n'est pas déterminée par ses combats, mais par sa destinée future. C'est ainsi que, par exemple, dans l'Écriture, on voit le peuple d'Israël sorti d'Égypte. Alors, vous pourrez me dire, c'est la joie de la libération, mais quand même, ils se retrouvent dans un désert immense sans rien, et ils exultent de joie, nous dit le texte. C'est évidemment pas parce qu'ils se disent « on va mourir de soif », vous voyez. C'est une autre sorte de joie. Et c'est cette joie-là, en fait, à laquelle nous sommes appelés. Une joie qui n'est pas déterminée par nos combats, mais par ce qu'on voit au loin. Notre destinée, l'espérance, en fait. La naissance de Jésus, par exemple, dans Luc, au chapitre 2, est annoncée comme une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie. La joie est un don de l'esprit, en fait. Cette joie-là, elle est spirituelle. Elle est liée à la compréhension de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Voilà pourquoi souvent Paul prie pour ceux à qui il écrit, pour qu'ils connaissent plus en profondeur l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Alors il faut ajouter à cela que la joie dont on parle n'enlève pas la peine, le chagrin et les autres sentiments que l'on peut ressentir face aux circonstances du temps présent. C'est important de le dire parce que parfois on entend dire « Oui, mais quand tu es chrétien, tu dois être toujours joyeux et donc tu ne dois pas pleurer. » C'est une aberration. Ça n'a rien à voir quelque part. C'est autre chose. Dieu nous a créés avec des émotions. Il serait injuste et faux de prétendre qu'un chrétien ne doit jamais être triste. Je rappelle quand même que Jésus lui-même a pleuré, au passage. Et comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et on n'a pas l'impression, quand il dit ça, qu'il dit « il y a un temps qui est mieux qu'un autre hein », non ? Il y a un temps pour chaque chose. Et en même temps, l'Écriture nous dit que l'un n'empêche pas l'autre. Par exemple, Paul, dans 2 Corinthiens 6, au verset 10, dit qu'il est comme attristé et pourtant il est rempli de joie. Parce que ce n'est pas le même terrain, en fait. J'ai trouvé cette définition sur une petite vidéo, alors j'en ai parlé à mon groupe de quartier de Saint-Hilaire, Bible Project, une petite vidéo sur la joie. Et à la fin, ils disent ceci comme une conclusion, la joie chrétienne est une décision profondément mûrie, basée sur la foi et sur l'espérance, dans la puissance de la vie et de l'amour de Jésus. Je trouve que c'est assez bien dit. Alors je le redis, la joie chrétienne est une décision profondément mûrie, basé sur la foi et sur l'espérance dans la puissance de la vie et de l'amour de Jésus. Je vous invite donc ce matin à redécouvrir cette joie dont Dieu veut nous combler. La joie de l'attente, la joie de la restauration, la joie de la fidélité de Dieu, la joie de la réalisation des promesses, la joie de la présence du Christ en nous, la joie de l'œuvre de sanctification dans nos vies, la joie de l'imminence du retour de Christ, et comme un couronnement, la joie de voir la gloire de l'Éternel, le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ces textes ce matin nous posent peut-être une question. Chrétien, où est votre joie ? La joie provient tout d'abord de la bonté de Dieu et de la beauté qu'il déploie dans sa création. Peut-être qu'on n'en parle pas assez de la beauté de Dieu, la beauté de ce que Dieu fait. Dans la Genèse, à chaque jour créé, il nous est répété comme un refrain, Dieu vit que cela était bon. Et ça procure de la joie quand les choses sont bien faites. C'est renforcé encore après la création de l'être humain, à l'image de Dieu. Dieu dit, enfin le texte nous dit, Dieu vit que cela était très bon. Et ceci est comme un rappel que Dieu fait les choses pour notre joie et pour notre bonheur. On peut ainsi s'émerveiller de la création, de sa beauté, de ses couleurs, de sa diversité, de la sagesse avec laquelle elle est orchestrée, de sa précision millimétrée. Tout ceci a été créé pour que nous nous réjouissions, en fait. Hélas, la création tout entière a été ternie, on le sait, par l'apparition du mal, par l'entrée du péché dans le monde, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu pour prendre sa place. Et c'est depuis ce moment que beaucoup de choses autour de nous, en fait, nous désespèrent, nous font du mal, nous causent de la peine et du tourment. Ce sont les conséquences de la désobéissance et de la coupure qui s'en est suivie entre Dieu et sa création au sens large. Mais le projet de Dieu reste le même. Je cite Jérémie 29, verset 11, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Voilà pourquoi Dieu engage après la chute le processus de réconciliation et de restauration qu'il a prévu pour nous sauver et nous ramener à lui. Alors c'est ce fameux premier point que j'annonçais tout à l'heure, la restauration promise par le Père. Restauration qui nous est décrite dans le passage d'Ésaïe. Non seulement une restauration de la création, mais aussi de l'humanité déchue. Et cette promesse de restauration, eh bien, elle est source d'une grande joie, car Dieu est fidèle et il accomplit tout ce qu'il promet. Et quand on est digne de confiance et qu'on promet quelque chose, la personne à qui on promet est déjà pleine de la joie que la chose va lui procurer, parce qu'elle sait que ça va arriver. Elle n'est pas en train de se dire « oui, mais peut-être il va changer d'avis ». C'est pour ça que c'est important de tenir ses promesses d'ailleurs, au passage, avec les enfants particulièrement. La promesse est grande puisque dans ce texte, il nous est dit que nous verrons la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Oui, mais pendant ce temps d'attente entre la promesse et l'accomplissement, eh bien, nous avons besoin de courage. Le texte le dit. Nous avons besoin de nous fortifier et de nous affermir. Nous avons besoin de persévérance et aussi de ne pas avoir peur. Et pour cela, il nous faut regarder à Dieu, en fait. Parce que si nous regardons au monde, si nous regardons aux circonstances, alors la joie s'éteint très vite, comme l'espérance d'ailleurs. Parce que le monde ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin d'un sauveur et c'est justement ce que Dieu promet. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. C'est le verset 4 du texte d'Ésaïe. Il est question ici de la restauration de l'humanité dans tout ce qui la ternit. Il est question de guérison, de vie et de libération. La présence de l'esprit de restauration de Dieu transforme la création et les êtres humains en renouvelant en fait ce qui a été corrompu par le péché. Ainsi, dans ce texte d'Ésaïe, Le désert dont il est question symbolise l'aliénation, l'angoisse, la solitude. Et on voit que Dieu seul peut transformer le désert en une oasis fertile et fructueuse. Et d'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe, l'eau, elle symbolise toujours un salut gratuit, gracieux et généreux qui déborde, en fait. Voilà pourquoi il utilise l'image de l'eau. C'est une métaphore de la plénitude et de la joie qui découle du salut de l'Éternel. De la même manière, quand on voit ce texte sur les aveugles qui voient, etc., spirituellement, les yeux qui s'ouvrent, c'est la capacité de faire la différence entre le bien et le mal, entre la sagesse et la folie. Dieu, dans ce texte, est en train de restaurer, à tous les niveaux en fait, non seulement le premier niveau, je dirais, des vrais aveugles qui vont vraiment voir, mais aussi le niveau spirituel et symbolique. Dieu restaure, il enlève les obstacles, il transforme, et il attend de son peuple qu'il se prépare pour son royaume. Et la façon de se préparer à ça, c'est notamment en préparant son cœur à la venue de Dieu, d'abord par la repentance, en reconnaissant qu'on a besoin de ce Sauveur qui vient, mais aussi en faisant progresser la parole de salut de Dieu parmi toutes les nations. Alors, nous dit le texte, la gloire de l'Éternel se manifeste et ramène les perdus à lui. Il est question de route aussi dans ce texte. Et la route, c'est pour montrer que c'est Dieu qui conduit. Une route dans laquelle, vous avez entendu à la lecture, même les insensés ou les étourdis ne peuvent pas s'égarer. Dieu qui conduit, de la même façon que quand il a délivré son peuple d'Égypte et que la nuée guidait le peuple. Plus d'impureté, si on résume tout ce qui a plu après ce texte d'Ésaïe, plus d'impureté, plus d'infirmité, plus de mal, plus de violence, plus de larmes. C'est la promesse que l'on retrouve à la fin de l'Apocalypse, la même, quand Dieu fait toutes choses nouvelles. Et nous savons que cela s'accomplira parce que celui qui l'a promis est fidèle et vrai. C'est la seule raison, mais en fait c'est la plus belle raison qui soit, pour pouvoir attester que cela va vraiment s'accomplir. L'Éternel est le Rédempteur, c'est lui qui purifie, qui consacre, qui affranchit et qui libère. Voilà la promesse. Et si nous revenons à nous, on peut se dire, bon, on n'en est pas vraiment là. Hein. Nous sommes dans un temps particulier qui se situe entre la promesse et son accomplissement, en fait. Et Ésaïe exhorte à se fortifier et à s'affermir. L'apôtre Jacques exhorte lui aussi le peuple de Dieu à la patience, une patience dans l'attente de l'avènement du Seigneur, et c'est le deuxième point, la transformation opérée en nous par l'Esprit. Et normalement, là aussi il y a un changement de vocabulaire, normalement une attente, ça n'est jamais passif. Aujourd'hui, quand on parle d'attente, on parle d'ennui et on ne fait rien. Mais normalement, ce n'est pas ça quand même l'attente. L'attente, c'est une préparation. Par exemple, si vous attendez un invité, normalement, vous allez préparer la maison. Faire un repas, ranger, etc. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais... C'est la même chose, on parle de attendre un enfant. 9 mois pour attendre un enfant. Eh bien, là aussi, on prépare. On prépare les affaires, on prépare la chambre, on prépare la maison... On prépare les proches aussi. On prépare l'ensemble de la famille à cette arrivée. Et on se prépare nous aussi personnellement en imaginant ce que sera cet enfant, à qui il va ressembler, qu'est-ce qu'il va devenir. On parle de projection en fait, on se projette. Et tout ça, c'est rempli de joie en fait. C'est une attente qui est remplie de joie. Parfois d'angoisse un peu aussi, hein, mais quand même de joie. Et en fait, c'est de cette façon-là, je crois, qu'on est appelé à attendre le Seigneur. Pas en faisant rien. Mais avec patience, certes, mais en se préparant, en préparant sa venue et sans nous décourager. Pour cela, nous devons affermir notre foi et notre espérance. Nous devons aussi nous rappeler souvent, régulièrement, la bonté et la fidélité de Dieu. pour ne pas finir par penser que bah, il ne va pas arriver, quoi. Non, si Dieu l'a promis, il va revenir. Et l'image de l'enfant, c'est pas mal, parce que 9 mois, ça peut être long quand même. Mais on sait que quand même, ça va déboucher sur un enfant, normalement. Sauf accident. Nous devons donc nous préparer personnellement pour cette venue, mais aussi nous y préparer ensemble. Et c'est la raison pour laquelle Jacques nous exhorte à ne pas nous plaindre les uns des autres. C'est intéressant. Déjà parce que c'est contre-productif, quelque part. Ça ne fait rien avancer. Et aussi parce que ça nous fait, en fait, perdre de vue l'objectif. Quand on commence à regarder à ceux qui sont autour, on oublie de regarder là où on va, en fait. Et ne pas se plaindre, si on reprend l'image d'attendre un invité, je crois que ça devient parlant. Parfois, on se plaint que l'invité soit en retard. Mais souvent, on se plaint parce que les autres membres de notre maison semblent ne pas avoir fait, à notre vue, hein, leur part pour que la maison soit prête pour l'invité. Je donne un exemple. « Oh, mais regarde, t'as pas fini de ranger ta chambre, il va arriver. » Alors, vous pouvez mettre les exemples que vous voulez. J'imagine que vous avez plein de scénarios vécus ou pas, là, qui arrivent dans votre tête. J'espère que je ne suis pas la seule, en tout cas. Et donc, on se plaint, en fait. Et du coup, on perd de vue l'objectif. Et parfois, on est surpris. Tout d'un coup, l'invité sonne et on est un peu en cata, à tout remuer dans la maison. L'attente peut comporter, d'une certaine façon, une part de souffrance, un risque de se lasser. Et c'est pour ça que Jacques, comme Ésaïe avant lui, nous exhorte à demeurer fermes dans cette attente et sans jugement. Et aujourd'hui, les chrétiens sont parfois maltraités, persécutés, poursuivis, tués. Ils sont pourtant appelés à la même patience, à attendre que Dieu se révèle, attendre que Dieu prouve l'innocence de son peuple comme il l'a promis. Dieu promet la justice pour corriger l'injustice qui domine ce monde. Et c'est aussi cela que nous attendons. Jacques veut mettre devant nos yeux, en fait, le sentiment d'urgence qui est lié à la venue imminente du Christ. Et pour cela, il nous rappelle qu'une foi authentique et affermie, c'est une foi qui porte des fruits. C'est pourquoi nous devons persévérer dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons chaque jour davantage nous attacher à lui, afin qu'il nous soit donné par lui de porter du fruit à sa gloire et que, le jour de son retour, le Seigneur puisse récolter ce fruit. Alors la seule façon de vivre cette attente patiemment et dans la joie, nous l'avons dit, c'est de regarder à Dieu, à sa fidélité, à ses promesses. Et c'est justement la raison de la question de Jean-Baptiste à Jésus dans le texte de Matthieu, c'est le troisième point, la présence du Christ en nous et avec nous. Une question très simple. Es-tu celui qui doit venir ? Que je ne sois pas en prison pour rien. Ce n'est pas écrit ça. Mais moi, j'entends ça derrière. Qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Et la réponse de Jésus peut surprendre. Il ne dit pas oui. Il ne dit pas directement oui, en tout cas. Il répond en disant « La prophétie d'Ésaïe s'accomplit. » Voilà la preuve. La prophétie s'accomplit. Et là, on ressent entre les lignes, hein, quelque part, la joie de reconnaître le Messie, de dire « ça y est, c'est là qu'on est, on est dans ce temps-là, on y est ». Jean-Baptiste, dans sa prédication, a prédit que celui qui doit venir apporterait le jugement, entre autres. Il a beaucoup insisté là-dessus. Et peut-être que pour lui, le temps de l'attente est difficile à comprendre entre Jésus qui accomplit la prophétie d'Ésaïe concernant la restauration et le jugement qui tarde à venir sur les oppresseurs du peuple qui souffrent. Je pense que Jean est un peu dans un état à se dire « mince, oui, d'un côté il y a cette prophétie-là qui s'accomplit, d'un autre côté ce qui était prévu, hein, le jugement des méchants, c'est pas là encore. » Eh bien Jean expérimente ce que nous expérimentons chaque jour, hein. Ce temps intermédiaire, le temps de la patience de Dieu entre les deux venues de Christ. Un temps qui ne doit pas nous faire perdre de vue le retour imminent du Fils de Dieu. Et lors de sa première venue, en fait, Jésus est venu apporter le salut et la bénédiction en subissant lui-même le jugement de Dieu à la place des autres. Pour la deuxième venue, il viendra juger les vivants et les morts en regard de ce qu'ils ont fait de ce salut offert par grâce. On est entre les deux. Et nous sommes appelés à tenir ferme notre foi et notre assurance, et à manifester notre joie et notre confiance dans les promesses de Dieu. Encore une fois, nous le pouvons, pas parce que le monde est un monde de bisounours, c'est très loin d'être le cas. Nous le pouvons parce que celui qui fait la promesse est certain. Nous sommes assurés que Dieu, qui est fidèle, accomplira tout ce qu'il a promis. Et nous le voyons tout au long de l'histoire biblique. Ce Dieu fidèle et bon déroule son plan de salut pour sa création. Il établit son alliance, une alliance de vie, une alliance perpétuelle. Il pourvoit à notre réhabilitation, à notre réconciliation, à notre justification. Toutes ces choses nous sont acquises par le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est venu sur terre pour vivre parmi nous. Encore une fois, on le nomme Emmanuel. Dieu avec nous. Il est venu pour payer à notre place la dette que méritait notre péché. Il est venu pour connaître la mort et la séparation d'avec Dieu qui nous était réservée à nous. Il a fait tout cela par amour pour nous, afin que cela retombe sur lui et pas sur nous. Et quand nous plaçons notre confiance en lui, il nous revêt, il nous habille de sa justice, de sa perfection, de son obéissance parfaite. Il nous offre la réconciliation et il nous libère du mal et de la mort. En son nom, nous sommes affranchis, libérés, restaurés, déjà, même si tout n'est pas complet, et sauvés. Jésus est né pour mourir à notre place. C'est un peu terrible dit comme ça. Mais c'est la réalité. Jésus est né pour mourir à notre place. À Noël, nous entrevoyons déjà la croix de Pâques. Et cet enfant qui naît dans une étable, c'est Dieu avec nous. Dieu venu vivre notre vie humaine, mais sans commettre de péché, afin de présenter cette vie comme une offrande à Dieu, en paiement de notre dette. Et avant quelques mots de conclusion, je voudrais vous lire quelques versets de l'Épître aux Colossiens, qui résument bien ces choses-là. Paul écrit « Car il a plu à Dieu, de faire habiter en lui, en Christ, toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et établie, pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Je crois qu'on trouve tous les aspects que j'ai développés dans cette prédication, dans ce texte. Voilà la joie que Dieu nous offre. En Jésus, nous sommes réellement libres. Par Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Nous héritons de sa vie et de toutes ses promesses. Mais ces promesses ne sont pas que pour nous-mêmes. Dieu nous envoie partager le salut qu'il nous a offert en Christ. Il nous envoie, chacun et ensemble aussi, répandre la bonne nouvelle de son amour et de sa grâce partout autour de nous. Et en ce troisième dimanche de l'Avent, eh bien, je crois que nous sommes appelés plus particulièrement à manifester au monde notre joie. Une joie que le monde ne comprendra pas, mais qui justement va l'interroger. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui s'appuie sur notre Dieu vivant, qui reviendra pour manifester sa justice. Et je crois que notre joie dans ce monde, malgré ce monde, si je puis dire, c'est notre témoignage de Dieu qui vient. Alors levons les yeux et attendons son retour en gloire en nous préparant activement à sa venue. Partageons cette joie qui nous habite, joie de l'attente, joie de la restauration, joie de la fidélité de Dieu, joie de la réalisation des promesses, joie de la présence de Christ en nous, joie de l'œuvre de sanctification dans nos vies, joie de l'imminence du retour de Christ. Joie de voir la gloire de l'Éternel, le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.